L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours.
Suite à un problème technique, le début de l'émission L'actu sur un plateau n'a pas été enregistré, donc il vous manque le sommaire et vous retrouvez tout de suite une interview de Lucille Florent, vice-présidente du Graal, interviewée par Amélie. Et il vous manque une petite minute du début de l'interview.
Donc de la Société protectrice des animaux avait de la place pour accueillir ces 5 chiens qui étaient disponibles à l'adoption, qu'un laboratoire nous a proposé de replacer. Donc ça s'est fait comme ça. On leur a demandé s'ils avaient de la place pour accueillir les chiens et ils en avaient. Donc ils ont été ravis de pouvoir accueillir ces 5 beagles la semaine dernière. Voilà.
Alors... Donc ils viennent de laboratoire, comme on l'a dit. Qu'est-ce que ça implique de particulier sur ces chiens?
Alors, ces chiens, en particulier, ces 5 chiens, donc il s'agit de 5 chiens de race Beagle. Donc ils ont 3 à 6 ans, on a 2 femelles et 3 mâles. Le laboratoire nous a indiqué qu'ils avaient servi donc pour des tests de pharmacocinétique. Alors c'est un mot un petit peu barbare, qui veut tout simplement dire qu'ils ont servi à tester en fait de nouvelles molécules. Alors, on ne sait pas si ces molécules sont pour des médicaments vétérinaires ou pour de la médecine humaine, mais voilà, on leur administre des molécules à petite dose et on voit si, des chercheurs examinent les réactions de l'organisme des chiens à ces molécules, dans le cadre des protocoles de fabrication de médicaments. Voilà.
D'accord, donc il est important de rappeler qu'ils sont aujourd'hui en bonne santé.
Tout à fait. En fait, c'est obligatoire. Un vétérinaire doit les examiner avant leur sortie du laboratoire pour attester qu'ils sont en bonne santé, que leur comportement est compatible avec une vie de famille et qu'ils ne présentent pas de risque pour l'homme, l'environnement, voire pour les autres animaux. Il est important de préciser aussi que les services vétérinaires des préfectures du département de où se trouve le laboratoire et où se trouve le refuge donnent leur accord conjoint. Donc, c'est validé par les services vétérinaires de la préfecture. Cet accord est indispensable. Donc, voilà, toutes les précautions sont prises. Et ces animaux sont effectivement en très bonne santé et aptes à une vie de famille lorsqu'ils sortent du laboratoire.
Et quelles sont les règles de confidentialité et de transparence que vous imposez au Graal, enfin à l'association, pour respecter le laboratoire ou les familles et la SPA?
Alors effectivement, donc en fait les laboratoires, donc on travaille depuis plus de 10 ans avec eux. Quand un partenariat se fait avec un laboratoire, on signe un contrat avec ce laboratoire. Et effectivement, il est prévu que l'anonymat du laboratoire doit être préservé. Donc ça, c'est une condition sur laquelle aujourd'hui, il n'est pas possible de déroger. Nous aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment de jouer cette interface entre les laboratoires et les refuges. Donc on ne communique jamais le nom du laboratoire. Et il n'est pas possible de savoir d'où proviennent les animaux lorsqu'ils arrivent sur le refuge. Voilà. Donc le laboratoire cède ses animaux au Graal et ensuite le Graal les cède au refuge. Donc ça se fait en 2 temps. Et effectivement, cette notion de confidentialité aujourd'hui, elle est quand même au cœur de la relation de confiance qui s'est créée quand même au fil des années avec les laboratoires et le Graal, puisqu'on est la seule association à travailler avec les laboratoires aujourd'hui à permettre que ces animaux accèdent à une nouvelle vie.
Sinon...
C'est un point qui est quand même aujourd'hui assez important. Mais il faut rappeler que les laboratoires sont quand même volontaires dans cette démarche de réhabilitation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expérimentation animale, malheureusement, elle est légale, elle est autorisée. La réhabilitation animale, si elle est possible, elle n'est en rien obligatoire. Rien n'impose au laboratoire de réhabiliter les animaux en fin de protocole qui peuvent l'être. Donc c'est vraiment une démarche volontaire des laboratoires et le fruit d'une collaboration entre notre association, les laboratoires et derrière tous nos refuges partenaires.
Et pour les conditions d'adoption, pour les particuliers qui seraient intéressés, est-ce qu'elles sont différentes d'une adoption ordinaire auprès d'un refuge SPA?
Alors finalement oui et non, parce qu'on a des profils de chiens vraiment très différents. Rien que dans ce petit groupe de 5 chiens, on va avoir des caractères assez différents. On a des chiens qui vont être très vifs, très curieux, très joueurs, d'autres qui vont être beaucoup plus doux, un peu timides, un peu plus câlins. Donc voilà, après en général on dit souvent que ces animaux, même quand ils sont adultes, leur comportement se rapproche de celui d'un chiot, puisqu'ils ne sont pas forcément éduqués à la marche en laisse, à la propreté, donc ils ont des comportements qui vont se rapprocher de jeunes animaux. Et nous, en fait, on fait un vrai travail avec nos refuges partenaires, dont le refuge de Millau de la Société protectrice des animaux, puisque cette période pendant laquelle les animaux transitent en refuge est très importante. Les équipes appliquent des méthodes d'éducation positive, elles stérilisent les animaux avant leur sortie, c'est très important. Elles font un vrai choix des adoptants pour leur trouver la meilleure famille. Il faut quand même avoir en tête que ce sont des animaux qui, pour la plupart, ont vécu pendant des mois, voire des années, ensemble, en groupe social, qu'ils ont vu des gens toute la journée. Et du coup, c'est vrai qu'on va essayer de s'orienter quand même vers des adoptants qui sont assez disponibles, au moins pour les premières semaines, parce que ce sont des animaux qui vont quand même très mal supporter de se retrouver tout seul pendant 10 heures par jour si toute la famille travaille, va à l'école, etc. Donc, on s'oriente quand même plus sur des profils d'adoptants qui ont déjà des animaux pour avoir aussi... un autre chien, par exemple, à la maison, qui pourra servir un peu d'exemple à ce chien réhabilité. Et puis, qui peuvent avoir des disponibilités, des horaires décalés, qui peuvent être en retraite, ne pas travailler, en congé maternité. Enfin, voilà, qui ont au moins des premières semaines vraiment pour être très disponibles pour l'animal, pour que la transition se fasse quand même en douceur, puisque, voilà, comme je vous dis, c'est des animaux qui sont très sociables avec l'homme, en général, et avec leurs congénères également. Voilà.
Avec cette initiative, donc vous épargnez à de nombreux animaux l'euthanasie, et à quel pourcentage à peu près vous évaluez les animaux ainsi sauvés?
Alors, on a pas, aujourd'hui, nous, en 10 ans, on a réhabilité plus de 2000 animaux, alors je précise toutes espèces confondues, majoritairement 1000 chiens, un peu plus de 1000 chiens, et sinon ce sont des chats, des furets, quelques rongeurs, des chevaux et des primates. Mais aussi parfois quelques animaux d'autres espèces comme des poissons ou des oiseaux, mais c'est beaucoup plus rare. Maintenant, on n'a pas les chiffres, on a accès un peu comme vous aux chiffres, à savoir combien d'animaux sont utilisés pour la recherche par an en France. Les chiffres qui sont un peu publics, qui sont quand même assez vagues, on parle de 2 millions d'animaux. On ne sait pas sur ce nombre global combien pourraient être réhabilités et ne le sont pas. Aujourd'hui, on n'a pas ces chiffres-là.
Voilà. Oui, c'est un petit peu une goutte d'eau quand même par rapport à l'évaluation que vous faites du total d'animaux concernés.
Pardon, je n'ai pas compris la fin.
Je dis, c'est un petit peu une goutte d'eau par rapport à l'évaluation totale des animaux qui sont concernés par la recherche.
Après, sur ce nombre global d'animaux utilisés pour la recherche, on ne sait pas déjà combien seraient aptes à être réhabilités. Ce serait déjà qu'une partie. Et effectivement, c'est pas un chiffre qui aujourd'hui c'est assez relativement peu au regard de ce chiffre-là. Maintenant, il faut aussi savoir que au-delà de la réhabilitation, il y a quand même le principe des 3 R qui s'applique, c'est-à-dire qu'au départ, les laboratoires essayent quand même de réduire le nombre d'animaux, réutiliser les animaux plutôt que d'en utiliser de nouveaux et remplacer les méthodes. Voilà, donc ça aujourd'hui, il y a quand même des efforts qui sont faits à ce niveau-là pour que de moins en moins d'animaux soient utilisés avant qu'ils ne soient réhabilités. Nous, on intervient vraiment à la fin de la chaîne. Bien évidemment, on fait en sorte qu'un maximum d'animaux soient réhabilités, mais on est la seule association aujourd'hui à le faire. On dispose uniquement des dons de nos adhérents, nos sympathisants, et aujourd'hui c'est un travail vraiment assez colossal déjà de faire cette interface, de gérer toute cette logistique pour ces dizaines voire centaines d'animaux qui sortent chaque année. Nous aujourd'hui on espère en réhabiliter toujours plus, mais on espère surtout que de moins en moins d'animaux soient utilisés. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure du volontariat justement des laboratoires. Est-ce qu'on peut envisager à terme une obligation légale de réhabiliter les animaux qui pourraient l'être ?
Écoutez, aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel des choses, je ne crois pas que la législation soit sur le point d'évoluer en ce sens. Donc, après, nous, au Graal, on est vraiment aujourd'hui, on fait l'ambulance, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps forcément et on n'a pas l'envergure d'une grande association peut-être pour aller solliciter que la loi évolue en sens d'une réhabilitation obligatoire pour les animaux qui peuvent être réhabilités. Maintenant, effectivement, ça pourrait être une bonne chose, mais ça s'inscrirait aussi dans une démarche aussi pour promouvoir les méthodes de remplacement. Comme je vous le disais, voilà, c'est un sujet qui est un petit peu qui doit être pris dans son ensemble. Et on rappelle quand même aussi que Aujourd'hui, la société, c'est une démarche, la réalisation est méconnue, mais la société aussi ça ne mobilise pas les foules. C'est un sujet qui peut faire un peu peur, qui peut choquer, mais les gens ne descendent pas dans la rue pour réclamer l'obligation de réhabiliter tous les animaux et la fin de l'expérimentation animale. Donc aujourd'hui, on espère faire connaître cette démarche. Effectivement, une réflexion s'engage en faveur d'une obligation. Ce serait une bonne chose. Maintenant, ça fonctionne déjà plutôt bien comme ça. Il faut savoir aussi que la réhabilitation, elle fonctionne grâce aux associations. Et je pense qu'aujourd'hui, il appartient aussi au pouvoir public de saisir un petit peu du sujet, puisque les refuges partenaires avec lesquels on travaille sont déjà souvent saturés pour les animaux issus de la maltraitance, les abandons. Pour ce qui est de certains animaux, comme les primates, on a de grandes difficultés à trouver des centres d'accueil pour ces animaux. Donc aujourd'hui, réhabiliter beaucoup plus d'animaux, ça, c'est bien, mais ça demande aussi des moyens. Et aujourd'hui, si ça se fait à plus grande échelle, ça peut être aussi un petit peu difficile pour des petites associations de réaliser ce travail. Voilà.
Oui, donc on a bien entendu l'ampleur de la tâche. Donc est-ce que vous, au GRAAL, on rappelle, c'est le groupement de réflexion et d'action pour l'animal, est-ce que vous vous concentrez sur ces questions de réhabilitation des animaux de laboratoire ou est-ce que vous avez d'autres activités ?
Alors on a effectivement, c'est notre activité principale. Aujourd'hui, ça nous demande d'avoir une personne qui travaille pour nous à temps partiel pour faire toute cette logistique qui est rémunérée grâce aux dons qui sont faits à l'association, on précise. Par contre, effectivement, on a aussi d'autres projets. Alors on travaille sur, on essaie de sensibiliser l'opinion publique, les mairies, les services vétérinaires sur la présence d'animaux dans les fêtes foraines. Comme les poissons rouges qui sont dans des sacs plastiques distribués en lot pour les fêtes foraines. C'est illégal, mais ça a toujours cours. Ça peut faire sourire, mais la souffrance animale peut prendre plusieurs formes. On a aussi développé depuis 4 ans un projet d'audit en abattoir. On propose aux abattoirs volontaires de réaliser un audit sur le bien-être animal avec la vidéosurveillance. Donc on n'a pas attendu au GRAAL que le sujet soit apporté sur le devant de la scène pour s'en saisir. Donc on a différentes actions en cours, mais c'est vrai que la réhabilitation des animaux de laboratoire nous mobilise beaucoup. Évidemment, on a un site internet, vous pouvez découvrir toutes nos actions sur ce site internet.
Eh bien, merci Lucille Florent d'avoir répondu à toutes nos questions.
Je vous en prie, merci à vous pour votre invitation. Et puis, sur les 5 chiens donc qui sont à l'adoption au refuge de Millau, une a déjà été adoptée, mais les 4 autres, a priori, cherchent toujours leur famille. Donc, n'hésitez pas à contacter le refuge pour venir les rencontrer. Et puis, il y a aussi plein d'autres chiens à la SPA qui attendent de trouver une famille, qui ne viennent pas de laboratoire, mais qui espèrent aussi trouver un foyer. Donc, voilà.
Voilà, donc ils sont donc à la SPA de Millau. Et ce sont 4 chiens Beagle dont il s'agit. Merci,
voilà.
Lucille
Merci
Florent.
Merci à vous.
On poursuit cette actu sur un plateau avec une petite pause musicale, Émilie.
Oui, on va écouter Tom Waits.
Inside.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Larzac et c'est l'actu sur un plateau en direct. On va maintenant vous parler d'une manifestation qui s'est déroulée mercredi 1er février. Environ 70 personnes se sont réunies sur la place du Vigan à Albi pour s'opposer au délit de solidarité. Nous l'évoquions il y a quelques semaines, le procès de Cédric Héroux qui avait ouvert un squat pour accueillir des migrants et qui risque d'être condamné pour les avoir véhiculés. Son jugement devrait être rendu la semaine prochaine, qui est d'ailleurs l'occasion d'une manifestation nationale cette fois, le 9 février. Il n'est pas le seul dans la vallée de la Roya, à la frontière italienne, et d'autres avant lui ont aussi pu être interpellés pour ce que l'on appelle le délit de solidarité. Plusieurs collectifs et associations ont donc appelé à les soutenir et à manifester leur propre solidarité.
Elle n'est pas un délit, non, elle ne doit pas être.
Protester contre le délit de solidarité, contre le fait que la solidarité soit un délit. Dans la République française, il y a quand même liberté, égalité, fraternité. Et que notre gouvernement, soi-disant de gauche en plus, se comporte comme ça, voilà, moi ça me révolte. Donc c'est pour ça que je suis venue là.
Bérangère, et je suis militante à RESF 81, Réseau Éducation Sans Frontières, et également au CAT, le collectif Accueil Avec Toi, qui a ouvert un squat sur Albi à la mi-septembre. Alors on a organisé cette journée dans la filiation du mouvement qu'a lancé la Ligue des Droits de l'Homme au niveau national, puisqu'il y aura des journées contre le délit de solidarité les 8, 9 et 10 février, au moment où sera rendu le jugement concernant Cédric Héroux, ce militant de la vallée du Roya qui a été traduit en justice et qui encourt 8 mois de prison avec sursis pour l'aide qu'il a apportée à des migrants. Et on se sent très solidaire de Cédric Héroux, c'est le cas de le dire, parce que nous aussi on apporte de l'aide à des personnes sans chercher à savoir si elles sont ou non en situation régulière, si elles ont ou non des papiers. Pour nous ça n'a pas de sens, on ne fait pas de différence, on apporte de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Et également parce que Cédric Héroux a été notamment inculpé pour le squat qu'il a ouvert dans des locaux désaffectés de la SNCF pour héberger des migrants. Et nous aussi sur Albi on a ouvert un squat et on est aussi poursuivi en justice pour ça, donc on se sent proche de ce qu'il a fait. Alors ce squat, il est dans d'anciens bâtiments de ERDF qui s'appellent maintenant Enedis, qui est ceux qui fournissent l'électricité. Ce sont des logements assez vastes, on a à peu près 2000 m² de superficie et c'est des logements qui étaient inoccupés depuis plus de 4 ans. On l'a ouvert à la mi-septembre, assez rapidement, début octobre, les sociétés propriétaires nous ont traduites en justice, donc on portait plainte. Il y a eu un premier procès le 17 octobre et le 24 octobre, on obtenait la trêve hivernale, donc on n'est pas expulsable légalement avant le 31 mars, le 1er avril. Sauf que on a eu un nouveau procès début janvier, le 13, puis finalement ça a été reporté au 20 janvier, où cette fois ils nous demandent, ils souhaitent couper l'électricité sur des motifs de sécurité. Mais en fait on voit bien qu'ils cherchent un motif pour nous expulser. Lors du premier procès en octobre, ils invoquaient des problèmes de sécurité à cause d'une prétendue pollution des sols, qui n'est pas du tout avérée et qui a été retoqué en justice. Maintenant, c'est plus la question de la pollution des sols, c'est l'installation électrique qui poserait problème au niveau de la sécurité. Enfin, on voit qu'ils cherchent un prétexte pour nous mettre dehors.
Voilà, en ce moment, par exemple, les familles qu'on a au squat, on a surtout des familles albanaises qui étaient à la rue à Albi, qui étaient dormées sur la place, là, cet été, au mois d'août. Ils ont dormi là 2 mois. Et depuis, ils sont encore...
Nous, on pense que ce lieu est essentiel sur Albi pour l'hébergement qu'il offre à des personnes que les pouvoirs publics laissent sans solution, parce qu'on a appelé le 115, on a fait des démarches auprès de la préfecture, mais en fait, il se décharge très largement sur nous. Et puis si on est expulsable, on va trouver d'autres solutions, enfin, on ne va pas laisser tomber l'affaire. De toute façon, on ne peut pas laisser tomber l'affaire parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cet hébergement et puis aussi de toute la vie sociale qui se développe autour de cet hébergement. Puisqu'on a aussi ouvert un centre social autogéré dans ce squat, où se développent des ateliers, où sont organisés des événements. Donc ça permet d'avoir un squat qui est ouvert sur l'extérieur pour éviter de ghettoiser ces personnes qui sont hébergées là. Il y a pas mal de malveillance de la part des pouvoirs publics, la mairie qui veut une ville propre et la préfecture du Tarn qui est quand même peu conciliante à l'égard des migrants, qui fait traîner beaucoup de dossiers, qui refuse beaucoup de procédures à l'égard des migrants qui, dans le Tarn, n'arrivent pas à obtenir les dossiers qu'ils souhaitent avoir et qui parviennent dans d'autres préfectures. Donc il y a quand même une politique très hostile dans le Tarn à l'égard des migrants. Concernant la mairie d'Albi, pour l'instant, pour l'ouverture du squat, on n'a eu aucun retour de la mairie. Je pense que d'une certaine manière, on les arrange parce qu'on nettoie un peu la place publique de tout ce qui n'est pas assez propre pour eux. C'est une ville qui se veut touristique, qui joue beaucoup sur la communication. Donc voir des gens qui font la manche, qui campent sur la place publique, ça ne leur plaît pas trop. Donc on abrite tout ça et je pense que ça les arrange très largement. Donc pour l'instant, ils ne nous disent rien.
D'accord.
Okay. Mais en même temps, on aimerait bien aussi qu'ils reconnaissent publiquement qu'on les arrange, qu'ils se déchargent sur nous et qu'ils ont besoin de nous. Et qu'ils demandent que les poursuites judiciaires contre nous cessent.
Je ne sais quoi, je n'avais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que, j'en suis une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que, j'en suis une autre route que.
On manifeste notre désapprobation de cette tournure que prennent les choses. C'est un peu dans le même esprit que la criminalisation de tout le mouvement social. Quoi. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'oppose là.
Voilà, je suis très touchée par tout ce qui concerne la solidarité avec les migrants. Actuellement, surtout, c'est vraiment très dur. On sait que la police arrache les tentes, arrache les duvets, les empêche même d'être tranquilles dans la rue. Et la plupart sont à la rue, sans eau potable, sans toilettes, sans sanitaire, etc. Notamment sur Paris.
Ben pour moi, la solidarité, ça veut dire qu'on regarde les gens autour de nous comme faisant partie de la même famille des êtres humains et qu'on peut être différent, qu'on peut être pas d'accord sur plein de trucs, mais qu'à un moment donné, le droit de vivre dignement et de vivre bien, on devrait tous se serrer les coudes pour que chacun y ait accès, quoi. Et qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y en ait qui aient accès et pas d'autres.
Contre la haine, la précarité, la solidarité.
Et c'est toujours l'actu sur un plateau, en direct de Radio Larzac.
L'invité de l'actu sociale.
On reçoit maintenant par téléphone Mathieu Télène, bonjour.
Bonjour.
Tu viens donc nous présenter la rencontre organisée par l'association Vivons Celles qui aura lieu mardi à Celles autour de la démocratie participative. Et pour cela, vous invitez Tristan Réchit, un habitant de la commune de Saillant dans le Vercors qui expérimente un système de démocratie participative. Alors est-ce que c'est un projet à Celles de tenter cette expérience ?
Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est un projet à celle de tenter cette expérience. En tous les cas, nous, ça nous a intéressé à quelques-uns qui habitons la vallée et la région, quoi, les alentours du lac du Salagou, de connaître ce qui a été expérimenté dans la commune de Saillant en termes de nouvelles manières de vivre la démocratie participative au sein d'une commune.
Alors, depuis 2 ans, elle est en place à Saillant, donc, quels sont les premiers retours de cette expérience ?
Alors les premiers retours, je pense que ça sera, il faudra poser la question directement à Tristan, qui va venir faire cette conférence mardi prochain au Mas de Riri, sur les bords du lac du Salagou. Je pense que c'est lui qui pourra nous dire plus exactement aujourd'hui, après 2 ans de retour d'expérience, puisque c'est une liste qui a été collégiale, qui a été élue en mars 2014, après 2 ans, 3 ans. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui de cette expérience de nouvelle façon de vivre la démocratie à l'échelle d'une petite commune.
Mathieu, est-ce que là, il y a l'intention de préparer les prochaines échéances municipales ou c'est ce qui vous intéresse avant tout, c'est la réflexion autour de l'expérience menée à Saillant ?
Alors, juste une précision, c'est que en fait, cette soirée, qui est une conférence ouverte à toutes celles et ceux qui sont intéressés à réfléchir ou à se questionner sur comment vivre la démocratie au jour le jour au sein d'une commune ou à une autre échelle géographique, c'est que cette soirée de conférence, elle s'inscrit, elle va être le premier soir de 3 jours de formation qui sont faits là par Tristan. On va être une quinzaine à suivre pendant 3 jours ce que lui nous propose. Comme présentation des outils qui ont été réfléchis, élaborés par les habitants de Saillant, enfin toutes celles et ceux qui participent à cette expérience de démocratie participative à Saillant. Et du coup, on va essayer là pendant 3 jours, nous de pouvoir profiter de on va dire des difficultés qui ont été rencontrées à Saillant, de quels outils ils ont mis en place en face, qu'est-ce qu'ils se sont dit, comment ils se sont organisés, pourquoi ils se sont organisés ainsi. Pour pouvoir nous profiter de cette expérience. Et puis je pense que ça a à cœur aussi de ceux qui sont dans cette aventure démocratique de partager au-delà de Saillant tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont mis en place. Donc voilà, c'est à la fois un échange pour que nous, ici, on puisse profiter de ce qui s'est fait à Saillant. Et puis on est une quinzaine à suivre la formation. Et je pense que dans les 15, il y a des parcours, des personnalités très différentes et chacun vient à cette formation avec des envies, des attentes qui peuvent être différentes, mais l'envie d'en savoir un peu plus sur ces nouvelles formes de démocratie participative qui peuvent s'inventer aujourd'hui.
Alors à Saillant, ce qui était assez particulier, c'est qu'ils ont pratiqué la démocratie participative plus que... qu'en la théorisant au préalable. Alors là, c'est plutôt l'inverse qui va se mettre en place, donc de théoriser ce qui a été une pratique. Et comment vous envisagez après d'expérimenter ça ?
Après, de ce que nous en a dit Tristan, c'était que lui, je pense, il a théorisé, ou en tous les cas, il essaye, ça l'intéresse, je pense, de mettre des mots sur ce qui est vécu à Saillant, qui est une expérience qui continue, qui se vit aujourd'hui au jour le jour, et de prendre du recul sur cette expérience. Après, lui, ce qu'il nous a dit, c'était que, bien sûr, il venait faire cette formation pour partager ce que eux sont en train de vivre à Saillant, mais ce qui l'intéresse, c'est aussi que nous, on se pose les questions ensemble à la quinzaine de personnes qui sera à cette formation, qu'on puisse travailler sur des cas, bien sûr, plus locaux, qui sont plus liés au territoire d'Octon, de la vallée du Salagou, de Selle. Et du coup, à partir de Saillant, comment est-ce qu'on pourrait ou imaginer peut-être transposer des processus de démocratie participative sur un autre territoire avec des expériences différentes, une histoire qui est différente et un contexte local qui est différent. Sur la formation, alors je crois pas que pour l'instant on ait décidé sur quel cas d'étude entre guillemets on allait porter notre regard. Je sais que là c'est un peu quoi cette formation et cette conférence se fait aussi en partie au moins à l'initiative d'une association Vivons Selle qui est attachée à faire revivre le village de Selle, donc qui est juste sur les bords du Salagou. Donc sans doute, pourquoi pas, on sera amené dans les 3 jours de formation à se poser la question comment ça se passerait si ce qui est vécu à Saillant devait se vivre à Selle. Et je crois savoir qu'il y a notamment Clément là qui s'est beaucoup impliqué dans l'organisation de cette soirée et de ces 3 jours de formation. C'est notamment par son biais que Tristan vient ici, parce que lui, il travaille pour la commune de Selle et il est très intéressé par toutes ces nouvelles formes de démocratie qui s'inventent au jour le jour à Saillant, mais aussi dans d'autres communes. Et du coup, j'imagine que si Tristan vient aujourd'hui ou la semaine prochaine sur les bords du Salagou, il peut y avoir cette envie dans le village de Selle de pourquoi pas prendre tout ou partie de choses qui ont pu être vécues ou se créer à Saillant. Mais pour ce qui me concerne, moi, j'ai envie de dire que c'est un peu à chaque territoire à inventer son type de démocratie participative. De mon expérience, je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire du copier-coller d'un territoire à une autre, tant il y a des disparités ou des particularités auxquelles, à mon avis, il faut faire attention et prêter un regard.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette formation, en fait, elle s'inscrit à la fois dans un transfert d'expérience, dans un retour d'expérience, et dans l'amorce d'une réflexion collective pour une possible transposition dans d'autres lieux et d'autres temps.
Ouais. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que Tristan, que ça soit dans la conférence ou après dans les 3 jours de formation, c'est que lui nous fasse la présentation de qu'est-ce qui a été vécu et qu'est-ce qui se vit aujourd'hui à Saillant. Et après, de se poser la question, si nous, ça devait se passer chez nous, de quoi on aurait envie et de quels outils on aurait besoin et dans quelle mesure ce qui a déjà été fait à Saillant, je pourrais le réutiliser ou le transposer dans ce que j'ai envie de faire ici, dans mon territoire, avec d'autres personnes.
Et les 15 personnes là, qui se sont inscrites à la, à la formation, elles viennent d'où, d'une manière générale?
Là, ce qu'on a souhaité, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que bon, Tristan, lui, il est dans le, je crois qu'ils appellent ça le comité des sages, de l'expérience de Saillant, et il passe une partie de son temps justement à aller partout en France faire cette conférence, proposer des formations sur ces nouvelles formes de démocratie participative. Et pour nous, on s'est dit en fait que sur la 15aine de personnes, c'est des gens qui sont, on va dire, très proches du Salagou ou de la commune de Selle, dans un rayon qui est limité, en se disant on n'avait pas envie de faire un appel trop large de personnes pour cette formation, en disant il vaut mieux que Tristan revienne. Peut-être qu'il aille juste sur la commune à côté ou sur celles qui sont voisines, sur l'Odève, sur Gignac, sur Clermont-les-Roses, sur Millau, sur le Larzac ou j'en sais rien. Mais en disant plus il reviendra vers chez nous, mieux ce sera. Et du coup, plutôt que d'avoir une formation où il y aurait eu 50 personnes dans un territoire qui aurait été beaucoup plus vaste, de dire on s'intéresse à peut-être avoir uniquement les gens d'ici qui vont pour l'instant suivre cette formation, mais avec l'idée que si juste à côté il y a une autre personne qui aurait eu envie de suivre cette formation, libre à elle de prendre le contact de Tristan et de lui dire est-ce que tu peux revenir dans 3 mois dans le village d'à côté, et on refait la même chose quoi. Donc je pense que là, la 15aine de personnes, c'est des gens qui sont essentiellement intéressés sur un vivre ici, dans le Salagou ou les territoires du Salagou, mais dans l'espoir que ça puisse se faire ailleurs.
Et au-delà de ces 15 personnes qui vont participer à la formation, quelle est l'opinion plus générale de la population de Selle à cette idée de démocratie participative? Est-ce qu'on peut évaluer ça à peu près?
Alors, Selle, c'est une toute petite commune avec très peu d'habitants aujourd'hui, parce que l'idée, c'est de recréer ce village-là. C'est une toute petite commune. Donc je ne sais pas si cette question serait pertinente à l'échelle de la commune de Celle. Après, moi j'ai l'impression que dans tout territoire, il y a une partie de la population qui souhaite s'investir et participer à une expérience de démocratie. Et puis il y a d'autres personnes qui sont plus distantes ou qui ont d'autres centres d'intérêt que celui du vivre ensemble. Après, voilà, là la proposition qui est faite de la conférence débat, c'est un partage d'expérience. Et puis après, c'est un temps d'échange, de questions, et puis de poursuivre aussi ça autour d'un buffet collectif où chacun amène à boire, à manger. C'est l'idée de faire une soirée conviviale, de partage, en discutant de comment est-ce qu'on a envie d'organiser notre vivre ensemble pour ce qui est de faire marcher la démocratie dans nos territoires. Donc ça passe par re-questionner peut-être le rôle des élus. Quel est le rôle de la représentation politique? Est-ce qu'aujourd'hui c'est de mettre en place des personnes qui décideraient à notre place, ou est-ce que c'est de mettre en place des personnes qui vont porter la voix de personnes qui les ont choisies? Mais sans dire je décide pour vous, ou de dire plutôt je suis là pour aller porter plus loin ou plus haut ce que vous avez envie d'avoir pour votre territoire.
Bien, merci.
Ça peut être un exemple de réflexion, mais après je pense que ce sera intéressant mardi soir que tout un chacun puisse venir avec ses questions et les mettre dans l'assemblée et les partager pour qu'on puisse réfléchir ensemble à aujourd'hui à la fois quelles peuvent être les problématiques que chacun peut rencontrer, et puis pourquoi pas aussi repartir avec des questions ou des envies, des attentes, en disant il faut vraiment qu'on profite de cette expérience, nous aussi il faudra qu'on l'invite, ou des choses comme ça.
Bien, merci Mathieu. On vous souhaite donc une bonne réflexion pour mardi soir et puis une poursuite de cette réflexion dans les jours, les semaines et les mois à venir, si possible. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle donc que cette soirée se tiendra mardi 7 février à 19h au Mas de Riri à Celle, donc c'est proche du lac de Salagou. Et donc elle est organisée par l'association Vivons Celle. Voilà, et on poursuit avec une petite pause musicale du choix d'Émilie.
Ouais, on va écouter Irina Popovska.
Mouche t'avec, couche t'avec. Drissi bala perestroïkana, mouche t'avec. Mouche t'avec, couche t'avec. Drissi bala perestroïkana, mouche t'avec. Дикуска, талишница, рисиба, дресиба, поставила проблемия, полошица завтра. Перестройкана мушта веккя. We'll be right back.
C'est l'actu sur un plateau sur les ondes de Radio Larzac et on retrouve une interview de Nicolas que tu as faite donc du Lorenzo Naccarato Trio.
Voilà le Lorenzo Naccarato Trio qui sera ce soir, vendredi 3 février à 20h30 à la Maison des Dolmens de Buzins à l'invitation de Millau en Jazz et du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. C'est un spectacle en co-accueil. Et avant cela, eh bien, le trio était en résidence un petit peu dans le secteur puisqu'ils ont animé des ateliers à destination des scolaires, donc à Aguesac tout d'abord, à l'école Jacques Prévert, c'était avec des primaires, ça c'était mercredi matin, donc j'ai pu les rencontrer à cette occasion. Et puis hier, ils étaient sur Millau, donc ils sont allés au collège Marcel Aymard le matin et à l'école Beauregard l'après-midi. Donc dans l'interview, on reparle de ces ateliers et on parle également aussi du travail et des projets du trio. Lorenzo, est-ce que c'est habituel pour le trio d'animer des ateliers à destination des scolaires ?
Alors, je ne dirais pas que c'est une chose habituelle pour nous, mais depuis maintenant un an, nous avons eu tous les trois l'envie de nous consacrer au développement d'ateliers pédagogiques pour des scolaires.
Lorenzo Naccarato.
Qu'ils soient musiciens pratiquants ou non. Et nous avons pu notamment mettre en œuvre un atelier autour de l'improvisation et du sound painting que nous avons présenté pour la première fois le 21 juin dernier à la Maison de la Terre à Poucharamé. Et nous avions une journée avec des enfants qui allaient, je crois, du CE1 au CM2 et avec lesquels on a pu instaurer l'apprentissage à la fois de quelques gestuels du sound painting et les inviter à se joindre à nous pour le concert du soir pour fêter la fête de la musique.
L'activité principale du trio, évidemment, c'est la production musicale. Qu'est-ce que vous recherchez à travers ces animations d'ateliers ?
Je pense que notre musique a l'ambition, ou je dirais le désir, d'être intelligible et compréhensible pour un public à la fois amateur de jazz et aussi un public moins initié à ce style musical. Et par conséquent, le fait de présenter notre musique à des enfants qui n'ont pas forcément été déjà amenés à écouter des improvisations ou un trio de musique instrumentale, pour moi ça a beaucoup de valeur et c'est aussi très surprenant et très jouissif pour nous en tant que musiciens de réussir à les incorporer dans notre son de trio et parfois être surpris par leur capacité à deviner et à ressentir eux aussi la musique de la même manière que nous on la ressent. Et le sound painting permet de manière presque instantanée d'avoir un effet sur la musicalité d'un ensemble.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une démarche d'éducation artistique, mais il y a aussi, pour vous, le plaisir d'une certaine découverte ?
Oui, oui, oui. Surtout que l'improvisation, c'est un...
Benjamin No.
C'est un élément qui est très important dans notre manière de concevoir la musique et de la partager. Donc faire partager ça à des enfants ou des adultes via le sound painting, c'est quelque chose de super intéressant, enrichissant, je pense, pour eux et pour nous de la même manière.
Est-ce que cette pratique de sound painting, c'est quelque chose que vous avez été amené à pratiquer, vous, dans votre cursus musical ? Comment ça s'est fait exactement ?
Oui, c'est une pratique qu'on a découvert à l'Université de Musicologie à Toulouse.
Adrien Rodriguez.
Dans laquelle on s'est retrouvé avec Lorenzo. C'est une technique qu'on a appris aux côtés de Andy Hemmler, qui était venu faire une résidence dans cette université. Et quand il s'est posé la question de faire des choses avec les scolaires et d'amener notre musique dans les écoles et de faire participer les enfants à un projet autour de notre musique, on a assez rapidement pensé à cette technique-là, qui permet d'avoir des résultats assez rapides et de monter en 2 fois 45 minutes, là c'est ce qu'on fait, un morceau entier avec des enfants qui interviennent, qui dirigent eux-mêmes. C'était la technique parfaite pour faire ça.
Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous continuez à vous former vous-même, ou est-ce que vous avez envie de pousser ça plus loin, dans, à la fois pour les ateliers, mais aussi dans, la, dans votre pratique quotidienne, musicale ?
Je pense oui, un peu dans la pratique musicale liée au trio, celle de la création et de la création instantanée, l'improvisation toujours, parce que ça permet d'ouvrir les portes à, aux idées de chacun. On a l'habitude de jouer ensemble, donc on a l'habitude de réagir aux propositions de chacun, mais je pense qu'en en y mettant quelques signes, quelques signes et quelques éléments en live liés au sound painting, ça peut pousser plus loin à l'ouverture musicale qu'on a déjà avec le trio.
Dans cette mini résidence, à l'invitation de Mio en Jazz, en Aveyron, et du service d'Aveyron Culture, effectivement, des services départementaux, évidemment, à l'aboutissement, il y a le concert. Est-ce que le fait de, d'avoir ces ateliers, c'est quand même assez intense, c'est un travail un petit peu exigeant, tous les points de vue, intellectuellement, physiquement, est-ce que ça vous met dans des bonnes dispositions pour le concert ?
Je sais pas. C'était une belle réponse, non ? Ça vous plaît ? Je sais pas, parce qu'on sait pas trop ce que c'est des bonnes conditions pour un concert. On a une musique qui nous permet à tous les trois de prendre les conditions dans lesquelles on est le jour du concert et d'essayer d'en faire quelque chose de joli. Notre musique et la façon dont elle est construite permet ça. On a eu fait des concerts, par exemple, à la suite d'un atelier, où donc on avait fait 3 ateliers de 2 heures, je crois, dans la journée. On a enchaîné sur des balances et on a enchaîné sur un concert. Donc là, on était rincés tous les trois. Et on s'est dit, bon, ben, on est fatigué, on va faire un concert dans cet état-là, mais on va en profiter de ça. Donc la musique n'a pas ressemblé à un autre concert où on était méga en forme, mais elle, c'était très beau quand même. Donc je pense que, moi, peu importe les conditions dans lesquelles on est, et du coup, faire un atelier avant ou pas, on va s'adapter à la condition dans laquelle on est.
Je voudrais juste ajouter que le fait de côtoyer des enfants donc, qui ont entre 7 ans et 11-12 ans, c'est aussi être plongé dans une énergie et une curiosité qui fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, tout en étant des musiciens professionnels et passionnés par notre métier, ça reste aussi une source d'énergie et d'enthousiasme de pouvoir travailler avec des enfants qui ont autant envie de s'amuser dans cette musique-là. Donc je pense que je vais arriver demain sur Buzyns pour ce concert en étant aussi plein de cette bonne énergie.
Oui, alors c'est vrai que là l'enchaînement se fait, n'est pas aussi serré que dans l'expérience précédente que citait Adrien, parce qu'il y aura un petit peu de temps. C'est un peu déjà trop tôt aussi pour tirer le bilan complet de cette action. Vous êtes un petit peu en plein dedans, mais vous avez déjà rencontré plusieurs classes, plusieurs enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire là, dans cet instant, de ce qui s'est passé hier et puis ce matin ?
À chaud, que les enfants sont très très réceptifs à ce genre à ce genre d'atelier. Et alors qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir cette musique-là et ces pratiques-là au collège, et que majoritairement ils n'écoutent pas ça, mais on se rend compte que l'ouverture d'esprit elle est là et qu'on arrive à des résultats géniaux, surprenants en termes de création, d'improvisation de leur part.
C'est ce qui m'a frappé en assistant à l'atelier hier à Aguesac. C'est effectivement la réceptivité des enfants et le contact qui s'établit pratiquement immédiatement. Et pour autant, le jazz, donc, qui est la musique que vous pratiquez, n'est pas réputé pour être une musique facilement accessible de par ses contenus, à tous les points de vue. Est-ce qu'il y a dans votre musique à vous, dans la musique du trio, quelque chose que vous considérez comme particulièrement accessible ?
Oui, bah je pense que c'est une musique qui a pas peur de mettre en avant des éléments simples. Et tout en étant des musiciens assez jeunes. Souvent, je pense que quand on est jeune, on a envie de montrer tout ce dont on est capable techniquement sur son instrument. Donc c'est vrai qu'on a aussi, nous, ce défaut, je le pense, encore. Mais dans la composition et dans le travail d'orchestration qu'on fait tous les trois sur ces morceaux, on essaye d'assumer aussi de savoir poser des mélodies qui parfois ont juste un intervalle avec un accord de trois sons, renversé d'une manière assez simple et sans forcément chercher une nouveauté ou une complexité qui serait parfois déplacée. Et moi, je préfère considérer que quand on est musicien et qu'en plus on aime improviser, c'est comme si on avait le pouvoir de prendre par la main quelqu'un qui connaît ou non cette musique et de lui dire « Regarde, je vais te faire visiter un truc. Je vais te faire découvrir cet endroit-là. On va aller à cette vitesse-là. Et puis là, je vais accélérer un petit peu parce que je pense que c'est un endroit où on va accélérer. » Et donc, de faire ça, ça veut aussi dire de donner à écouter et à comprendre quelque chose qui, des fois, doit être simple. De la même manière qu'un grand plat de cuisine, c'est pas forcément que des langoustes, des homards et du caviar. Donc je suis plus partisan de cette approche-là, de la musique.
Vous avez un album qui est sorti il y a pratiquement un an. Est-ce que la musique que vous jouez aujourd'hui sur scène, c'est celle de l'album, ou est-ce que déjà vous êtes parti dans une autre direction, ou est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous avez envie de proposer au public ?
Je dirais que c'est un prolongement. Le premier disque que nous avons eu la chance de sortir en mars dernier, en 2016, auprès du label Labori Jazz, venait en quelque sorte poser un premier aperçu de notre parcours, de l'existence de ce trio depuis 5 ans, et laisser aussi suffisamment d'ouverture pour qu'on ait encore des choses à raconter dans la continuité de cette esthétique musicale et de cette recherche autour du mouvement, de la communication, du dialogue. Voilà. Donc, à mon sens, il y a encore un chemin à accomplir et d'autres pistes à approfondir, je dirais, dans la continuité de ce premier album. Et on espère avoir rapidement le plaisir de rentrer en studio et de faire exister les autres morceaux qui, pour certains, seront déjà joués dès demain.
Et demain, c'est aujourd'hui. Vous pouvez retrouver donc le Lorenzo Naccarato Trio. Lorenzo Naccarato au piano, Adrien Rodriguez à la contrebasse, Benjamin No à la batterie. Ce sera ce soir, donc à 20h30, à la Maison des Dolmens de Buzyns. Donc un accueil Millau en jazz et théâtre de la Maison du Peuple de Millau. Allez-y, parce que c'est toujours un vrai plaisir de voir éclore sur scène de jeunes talents.
Eh bien, merci Nicolas pour cette interview. C'est maintenant la fin de l'actu sur un plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Émilie à la technique.
De rien.
Et merci Nicolas. Pouvez nous réécouter en rediffusion ce soir à 19h et vous retrouver la semaine prochaine, Conflit de Canards, à midi.
Et on se quitte avec un morceau de Lorenzo Naccarato. Pourquoi
oui,
pas.
Oui, c'est ça, c'est Matiamou.
Allez.
Thank you.